autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation. La tête dans les étoiles aujourd'hui pour partir en orbite, sonder l'insondable en compagnie de l'astrophysicien et poète Jean-Pierre Luminet, chercheur éclairé et éclairant qui sait calculer les trous noirs, faire flamber des crêpes stellaires et même nous projeter dans les multivers. Bienvenue dans l'imaginaire sidéral et sidérant de cet astrophysicien visionnaire qui n'a pas son pareil pour partager sa quête des mystères de l'univers en faisant appel tout autant à l'observation, à la simulation, à l'exploration qu'à l'intuition. Tout est permis, ou presque. Autour de la question comment imaginer l'univers, on commence par un joli délire, celui de Florence Porcel, la community manager de l'univers sur sa chaîne YouTube.
Bonjour à tous, vous savez le truc dans lequel on vit? La Terre? Non, pas dessus, dedans. L'atmosphère? Non plus. Enfin si, mais non. Le système solaire?
Elle va nous faire tous les mots en R, là. L'Angleterre, les coléoptères, Twitter...
Et ta mère.
Bon, enfin, stop!
Dans l'univers?
Voilà, oui, merci. L'univers, ah, tu vois?
L'univers, vaste sujet. Jean-Pierre Luminet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous dans l'univers. Donc, c'est toujours un très grand plaisir de recevoir l'astrophysicien, poète et musicien que vous êtes, internationalement reconnu pour vos travaux sur les trous noirs, dont vous avez été le premier, il y a 40 ans, à donner une représentation exacte, connu également pour votre modèle de crêpe stellaire flambée, pour décrire les étoiles qui s'aventurent trop près de ces trous noirs, connu encore pour votre hypothèse d'un univers chiffonné. Vous êtes un chercheur visionnaire, Jean-Pierre Luminet. Mais ce n'est pas tout, vous êtes également écrivain, poète, musicien et formidable passeur de science et d'émerveillement. Vos chroniques de l'espace, distillées tout l'été sur France Inter, viennent d'être publiées aux éditions du Cherche Midi. Nous en avons d'ailleurs un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditeurs et internautes, avis aux amateurs, signalons aussi l'apparition à venir de votre recueil de poèmes indicateurs de l'espace. Votre imaginaire, Jean-Pierre Luminet, paraît sans limite, en expansion peut-être, comme l'univers, je ne sais pas. Est-ce que c'est ça votre moteur?
Oui, Einstein disait que l'imagination était plus importante que le savoir. Et donc, oui, l'imagination, avec à la base l'intuition également, c'est le fondement, en fait. Le fondement même de la créativité, qu'il s'agisse de science ou d'expression de création artistique. Et pour moi, ça a toujours joué un rôle absolument fondamental dans tout ce que j'ai essayé de faire dans ma vie, que ce soit dans le domaine de la science ou dans les autres domaines qui me passionnent. Les disciplines artistiques et littéraires.
Mais qu'est-ce qui vient en premier? C'est l'intuition du poète ou du musicien ou c'est la méthode scientifique, du scientifique?
Non, la méthode vient plus tard.
Ah, la méthode vient plus tard.
Tout part de notre fond, c'est une sorte d'océan que l'on a au fond de nous, d'imaginaire, d'image primordiale ou pas, et dans lequel on va aller puiser quelques images que là, après, on va faire jaillir à travers... la création, alors après, qu'il s'agisse d'une l'élaboration d'un modèle scientifique ou l'élaboration d'un recueil de poèmes ou d'une œuvre musicale, etc. Donc les méthodes sont différentes, mais il y a toujours un processus d'élaboration et de mise en structure de ce qu'il y a au fond de nous et qu'il faut avoir le courage d'aller chercher.
Alors je ne sais pas si vous avez le courage d'aller chercher cette image-là, mais comment avez-vous pu, Jean-Pierre Luminet, imaginer l'ombre d'un trou noir? C'était il y a 40 ans, 1979. La publication de ce portrait d'un trou noir avait eu un retentissement mondial et pour cause. Vous aviez réussi à calculer exactement ce qui vient d'être vérifié 40 ans plus tard par une photo, la première photo d'un trou noir.
Oui. Non mais là, je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire, en ce sens que, bon, je venais de finir mes études mathématiques pures à l'Université de Marseille, je monte donc en région parisienne pour continuer mes travaux, plutôt dans le domaine de l'astrophysique relativiste, les choses de la relativité générale, les objets étranges, évidemment, tout naturellement, je suis fasciné par ces objets que l'on appelle des trous noirs, qui, à cette époque, on est dans au milieu des années 70, restent encore essentiellement des objets théoriques. Pour les astronomes, on n'a que ce qu'on appelle les signatures très indirectes de leur existence réelle. Et donc, c'était l'occasion d'imaginer, mais plus que d'imaginer, c'est-à-dire de faire un véritable calcul scientifique de l'aspect d'un trou noir entouré de quelque chose, bien entendu, puisque le trou noir lui seul est par définition invisible, donc entouré d'une structure de gaz, par exemple, ou entouré d'étoiles, etc. On met ça en équation, tout simplement, on écrit des équations de propagation d'un rayon lumineux dans l'espace-temps courbé par un trou noir, et on écrit le programme et on fait tourner l'ordinateur en ayant auparavant, précisément, et c'est là où c'est important, une intuition de ce que l'on doit obtenir avant d'écrire un programme. Et donc, c'était l'intuition géométrique que j'avais qui me donnait déjà l'idée de ce que je devrais obtenir comme image, un petit peu distordue, avec des mirages, des illusions d'optique, des multiplications, enfin, des choses assez étranges. Et voilà, donc j'ai fait ce calcul en 1978. Ça ne m'a pris que quelques mois. Ce qui a pris un peu plus de temps, c'est pour tracer l'image finale, puisque à l'époque, nous avions un seul gros ordinateur à l'Observatoire de Paris, à carte perforée, pour écrire les programmes. On n'avait pas de système de visualisation. Et donc, la fameuse image finale qui a fait effectivement le tour du monde, qui est une image plutôt réaliste, j'ai dû la finir à la main en traçant à peu près 10 000 points sur une feuille de papier pour obtenir cette image. Et puis après, je suis passé à autre chose et vraiment sans me douter que 40 ans, je me doutais pas à l'époque que de mon vivant il y aurait un télescope capable de voir cela. Parce...
Je vous remercie justement, oui. Jean-Pierre Lumier, d'écouter l'annonce de cette première image d'un trou noir.
10 avril, hein,
oui. Voilà, 10 avril de dernier 2019. Par le consortium international de chercheurs de l'Event Horizon Télescope.
Je n'aurais jamais cru que ce trou noir serait aussi gros que les gens le disaient. Jusqu'à ce que l'on voit ceci.
This is...
Voici le noyau de la galaxie M87. Et voici la toute première image d'un trou noir.
Vous ne vous attendiez pas, Jean-Pierre Luminet, à ce que de votre vivant, vous dites, 40 ans plus tard, après que vous l'ayez dessiné, que ce trou noir puisse être photographie ou mise en image, en tout cas.
Oui, non, mais tout simplement parce que les trous noirs sont des objets un peu exceptionnels, donc ils sont relativement, statistiquement rares, et donc les plus proches trous noirs sont extrêmement éloignés de nous, puis en général les trous noirs sont des objets très compacts en taille, à l'exclusion des trous noirs géants et supermassifs. Et d'ailleurs, dans cet article de 1979, dans les dernières lignes de l'article, j'écrivais malgré tout que si malgré tout un jour on avait un télescope, mais moi je pensais un jour, c'est un siècle ou deux, on avait un télescope. La première cible serait le trou noir géant dont on soupçonnait déjà l'existence dans la galaxie Messier 87.
C'est celui-là qui a été
photographié.
Donc quand je dis visionnaire, vous aviez imaginé que si on photographiait un trou noir, ça serait bien celui-là.
Oui, non, mais en fait, c'était pas une question visionnaire, c'était une question de logique, parce qu'à l'époque, c'était le trou noir de Messier 87, c'était le premier dont on commençait à avoir la quasi-certitude qu'il était très gros.
C'est un monstre cosmique.
Un monstre de 6 milliards de fois la masse du Soleil, il fait 40 milliards de kilomètres, mais il est extrêmement loin. Et donc, en fait, pourquoi je n'imaginais pas du tout que de mon vivant puisse avoir une image télescopique, probablement d'abord parce que je suis un théoricien que je ne connais pas grand-chose de télescope, premièrement, et puis deuxièmement parce que pour avoir une telle précision, ce qu'on appelle une résolution angulaire, parce qu'un trou noir aussi gros mais qui est si loin, c'est à peu près, ça équivaut à vous voir une pièce de mon nez placée sur la Lune à l'œil nu, donc évidemment ça ne marche pas très bien.
Oui,
et donc en fait il fallait un télescope de taille planétaire, et à l'époque, la taille de la planète, vous imaginez un télescope avec une ouverture de 10 000 km hein, voilà. Et bien
non,
donc
non,
en fait,
non,
bon,
même
à l'époque, à l'époque, donc, j'ignorais évidemment tout de l'observation astronomique et je ne savais pas que la radioastronomie permettait de faire ce qu'on appelle de l'interférométrie. Alors désolé pour ce terme compliqué, mais l'interférométrie à longue base, ça consiste à utiliser un réseau de radiotélescopes répartis un peu partout sur la planète, à les faire fonctionner ensemble au même moment pour observer le même objet et après à combiner de façon extrêmement compliquée toutes les observations pour arriver finalement à avoir un télescope qui a la taille du réseau. Et c'est grâce à ça que les équipes qui travaillaient en fait depuis 20 ans, et que moi je ne savais même pas, parce qu'entre temps je travaillais sur les crêpes stellaires, les univers chiffonnés, etc. Je ne suivais plus vraiment l'histoire, et ce n'est que quelques années avant que j'étais recontacté par les directeurs scientifiques de ça, en disant qu'ils étaient prêts, qu'ils étaient sur le point d'avoir cette image. Donc,
est-ce que justement, alors cette image que vous avez théorisée, qui a été prise, enfin photographiée, ensuite, est-ce que ça éclaircit le mystère des trous noirs, ou est-ce que, un peu comme souvent en astrophysique, plus on avance dans la connaissance et plus le mystère s'épaissit aussi, on avance dans notre ignorance, comme dirait
Alors Garnier. Bon, là on va plutôt dire que ça irait du côté de l'éclaircissement, non, pour un trou noir il vaut mieux, parce que si en plus on assombrit le trou noir, voilà, vraiment, là, on voit vraiment plus rien. Non, dans la mesure où en fait ça confirme toutes les simulations numériques et les prédictions théoriques qui avaient été faites. Parfois on a des observations justement qui ne collent pas tout à fait aux observations. À la limite, ça peut être des fois plus intéressant parce que ça suscite justement de nouvelles interrogations, de nouveaux modèles. Voilà. Alors, je ne dis pas que le sujet est clos, loin de là. Hein. L'Event Horizon Telescope va s'agrandir, il va changer de longueur d'onde, on va prendre en image d'autres trous noirs, etc. Et puis, il faut quand même améliorer les observations pour voir un peu plus finement, parce que quand même, l'image qui a été montrée, qui est spectaculaire, elle n'est pas aussi fine finalement que celle d'une simulation numérique qui est un petit peu idéalisée.
Et donc,
pour avoir des détails encore plus fins, voilà, il faudra améliorer. Et puis, évidemment, le but final, ce n'était pas juste de prendre une image. Hein, l'image, c'est le truc grand public, spectaculaire, etc. Mais derrière, il y a toute la physique compliquée des trous noirs.
Sur laquelle vous travaillez aussi. Alors, vous travaillez aussi sur l'univers chiffonné, hein, autour de la question pourquoi imaginer l'univers ? Pourquoi l'imaginer chiffonné, Jean-François ?
Ça, c'est un travail qui est venu plus tardivement, c'est-à-dire à la fois après ces calculs d'images télescopiques, puis après mon travail sur les crêpes stellaires qui faisaient également intervenir les trous noirs. Après, je suis passé à ce qu'on appelle la cosmologie, c'est-à-dire essayer de faire des modèles sur la structure de l'univers dans son ensemble. Et puis, de par ma formation de mathématicien pur, je me suis aperçu que finalement, mes camarades cosmologistes, qui utilisaient donc les modèles classiques de la cosmologie, le modèle de Big Bang, expansion-contraction, etc., ignoraient en fait certaines subtilités venant d'une branche des mathématiques qui s'appelle la topologie, qui traite de la forme des espaces. Voilà. Et donc, dans les années 90, j'ai commencé à m'intéresser à ça, et j'ai commencé à importer des résultats de mathématiques ignorés des cosmologistes pour les importer dans les modèles de Big Bang, en montrant qu'ils étaient tout à fait compatibles avec les observations, avec le modèle standard du Big Bang, mais qui changeait un petit peu qui pouvait changer beaucoup notre vraie perception de l'espace, puisque tout simplement, nous, on reconstruit les modèles d'espace à travers les rayons lumineux qui nous parviennent. Mmh. Voilà. Mais s'il y a des illusions d'optique...
Ah, cette reconstitution.
S'il y a des illusions d'optique. Voilà, donc on fait des reconstitutions en croyant que c'est la réalité, mais la réalité peut être plus subtile que cela. Et précisément, ce qu'on appelle donc cette discipline, qui s'appelle la topologie, permet de construire, de bâtir des formes que j'ai appelées pour la vulgarisation des formes chiffonnées. Évidemment, le terme technique est beaucoup plus compliqué. Univers multiconnexe, ça s'appelle.
Oui, multiconnexe, voilà. Un peu en éventail, oui. Un peu.
Oui, alors univers plié, chiffonné, avec des structures compliquées qui créent justement des sortes d'effets de miroir, de démultiplication d'images, en démultipliant les trajets des rayons lumineux entre une source et nous. On va voir la source en plusieurs exemplaires répartis dans tout le ciel, à des âges différents. Bref, un mirage topologique absolument fascinant qui avait la possibilité donc de nous délivrer un vrai modèle d'espace physique, finalement absolument en accord avec ce que l'on savait, l'univers en expansion avec rempli de matière sombre, énergie noire, peu importe, tout ça c'est bon, mais c'est simplement la taille et la forme de l'espace qui change à un moment donné, puisque beaucoup de gens pensaient que l'espace était infini, et puis moi j'ai proposé un modèle d'espace fini, sans bord, chiffonné.
Simplement, un modèle d'espace fini, sans bord, chiffonné, autour de la question comment imaginer l'univers et pourquoi l'imaginer chiffonné, justement, et comment échapper au mirage topographique. Nouvelle question pour vous, soulevée par une autre éminente astrophysicienne que vous connaissez, Hélène Courtois, qui sonde elle aussi l'insondable en tentant de cartographier l'univers et ses milliards de galaxies. Hélène Courtois a notamment mis au jour l'immense continent spatial,
l'Agnakéa,
qui abrite notre minuscule voie lactée à sa périphérie. Écoutez sa question, elle est pour vous.
Alors Jean-Pierre, j'ai une question que j'ai très envie de te poser, c'est est-ce que tu penses qu'un jour on va pouvoir utiliser les distorsions de l'espace-temps comme les warp drive ou alors proche des trous noirs pour voyager beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière, aller d'un point A à un point B en très peu de temps.
Votre réponse, Jean-Pierre
Oui,
Linné, à cette question
pour cette question
de science ou de science-fiction.
Qui m'est assez souvent posée, d'ailleurs, à l'issue de mes conférences pour le grand public, parce que, bon, ça fait intervenir une sorte de construction mathématique assez fascinante qu'on appelle les trous de verre. C'est-à-dire, ce seraient des distorsions qui existent, en tout cas, sur le papier en tant que solution mathématique de certaines équations de la relativité générale, qui seraient des distorsions extrêmes de l'espace et du temps que l'on trouverait au fond de
trous
noirs. C'est-à-dire, lorsque vous avez un trou noir qui se forme, alors il y a plusieurs théories. Dans les théories, ça fait un puits avec un fond qui est bouché. Bon, il n'y a rien qui ressort. Mais dans d'autres modèles, il pourrait y avoir... le puits ne serait pas bouché. Et s'ouvrirait, s'évaserait ailleurs, sous la forme d'une sorte d'anti-trou noir qu'on appelle une fontaine blanche, et la connexion entre les deux serait un trou de verre.
Si on rentre dans le trou noir,
on n'est pas détruit par des forces gravitationnelles énormes, ça c'est une autre affaire,
ouais,
etc.
Ouais, ouais.
Qu'on arrive à traverser le trou de verre,
VER, comme un petit verre.
VER, oui, le trou de verre. L'image avait été donnée par un grand physicien américain qui s'appelle John Wheeler, qui avait lui-même aussi donné le nom de black hole, le premier de trou noir. Il imaginait sur une pomme un petit verre, un asticot, qui au lieu de faire le tour de la pomme pour aller de l'autre côté,
traverse
un tunnel. Donc il a raccourci. Voilà. Et donc ce seraient des raccourcis pour voyager dans l'espace et le temps. Ça a été évidemment amplement également utilisé dans la science-fiction. Hein. Ceux qui ont vu le film Interstellar, par exemple, bien entendu, si on veut un jour explorer les étoiles lointaines, sans parler même des galaxies encore plus lointaines, il n'y a pas d'autre moyen que d'utiliser ce genre de distorsion, certes très spéculative encore, parce qu'on n'aura jamais les moyens. Mais attention, par rapport à ce qu'a dit Hélène,
oui,
il ne s'agit absolument pas de faire des voyages supraluminiques, c'est-à-dire à des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière. Ça reste un postulat quasiment indépassable. Non, ce sont simplement des raccourcis. Hein. Vous êtes dans une chaîne de montagnes, il y a deux vallées. Vous voulez aller dans l'autre vallée, soit vous gravissez la montagne, vous prenez le chemin long, ou soit vous empruntez un tunnel. Vous ne dépassez pas la vitesse maximale autorisée, c'est juste un raccourci spatial. Alors ça peut être aussi un raccourci spatio-temporel, mais on ne dépasse pas la vitesse de la lumière.
D'accord, on ne dépasse pas la vitesse de la lumière,
voilà,
mais si on arrive à survivre au trou noir, ça veut dire qu'on peut voyager dans le temps quand même, dans le temps et dans l'espace.
On peut voyager dans l'espace et dans le temps. Et alors l'une des choses les plus fascinantes avec ces hypothétiques trous de verre, c'est qu'en voyageant dans le temps... d'abord, il n'y aurait pas vraiment d'espoir de retour, parce que vous savez qu'en relativité, le temps est très élastique, et dès que vous empruntez des vitesses proches de la vitesse de la lumière ou des distorsions gravitationnelles énormes qui sont un petit peu équivalentes à ça, vous avez des effets d'élasticité, de distorsion temporelle tels que, si vous faites un voyage, c'est pas la peine de revenir, puis il n'y aura plus personne.
À la maison,
parce que les temps se seront écoulés de façon complètement différente. Mais l'une des choses les plus fascinantes avec les trous de verre, j'ai écrit récemment un article là-dessus, c'est qu'il pourrait même y avoir des voyages dans le passé. Alors vous imaginez un voyage temporel dans le passé. Alors
ces sources, on remonte le temps.
Voilà. Et oui, mais c'est source de plein de paradoxes, évidemment, le voyage dans le passé. C'est bien connu, dans la science-fiction aussi, il y a plein de récits où si vous voyagez dans le passé, après vous allez modifier le futur.
C'est-à-dire, vous allez
modifier le présent dans lequel vous étiez au moment de voyager le passé. Et après, ça engendre évidemment une quantité d'absurdité, parce que finalement, ça enfreint une sorte de postulat que l'on pose, qu'on appelle la loi de causalité. C'est-à-dire que la cause doit toujours précéder l'effet. Si vous inversez les choses, on s'arrache les cheveux. Hein. Mais comme l'imagination n'est jamais épuisée, on peut quand même imaginer des configurations avec des voyages temporels dans le passé qui finalement ne conduisent pas nécessairement à des paradoxes. Si on ne se retrouve pas au même endroit, par exemple, vous n'allez pas modifier les conditions de départ si vous vous trouvez très loin.
Mais ce sont des hypothèses.
Ou même dans d'autres univers, puisqu'il y a des modèles de multivers où il y a une multiplicité d'univers.
Parce que c'est ça, on ne s'arrête pas à un univers chiffonné, il y a peut-être des multivers.
Si vous débouchez dans un autre univers, d'abord, vous ne risquez pas de revenir, surtout, puis finalement, vous ne risquez pas d'altérer la causalité de l'univers dont vous partez.
Ça vous met quand même d'excellente humeur, tout ça, Jean-Pierre Luminé.
Je veux dire, il faut reconnaître qu'il y a une composante ludique qui est importante, évidemment, dans la recherche scientifique et surtout
aussi
en physique théorique. Parce que justement, ce n'est pas évidemment complètement libre cours à l'imagination. Il y a une grosse part, évidemment, d'imagination et d'intuition. Mais après, la mise en structure dont on parlait tout au début, elle est fortement contrainte. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Il faut faire un modèle, après, qui est cohérent sur le plan mathématique, physique,
etc. Au plus loin possible, mais vous ne pouvez pas faire n'importe quoi.
Bien sûr qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est peut-être là où ça se distingue de la création artistique, où après tout, finalement, il y a une plus grande liberté. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui, malheureusement, la réalisation artistique, on peut penser que c'est du n'importe quoi. En physique, en mathématiques, on ne peut pas faire n'importe quoi.
Autour de la question « Comment imaginer l'univers et jusqu'où ?», je vous rappelle, chers amis auditeurs, que vous pouvez gagner un exemplaire des chroniques de l'espace de notre invité, Jean-Pierre Luminet. Si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook, il vous suffit d'être sous une bonne étoile. À l'écoute de M sur RFI.
T'es rien, juste une poussière dans un système solaire, une chose mystérieuse. C'est rien, on est tous un peu flous, pas sûr de nous du tout, dans la nébuleuse. Mais ce soir, en regardant les étoiles, j'ai vu dans le ciel quelque chose qui brille.
M sur RFI. Autour de la question, comment imaginer l'univers, comment le rêver, le calculer, l'approcher et le comprendre, en compagnie de l'astrophysicien et poète Jean-Pierre Luminet. Suivez-moi car je vous emmène maintenant au théâtre, sur les traces d'un autre éminent cosmologiste à l'imagination fertile, Jean-Philippe Uzan, qui répète sa prochaine pièce, 5 Terra Nuit plus une, autrement dit 5000 milliards de nuits depuis le Big Bang, plus une nuit à vivre sur la scène du Théâtre de la Reine Blanche, première le 8 novembre prochain, pour cette errance cosmique interprétée et mise en scène par l'astrophysicien Jean-Philippe Uzan avec son complice Étienne Pommeret. Caroline Fillette les a surpris pour nous en pleine répétition, forcément astronomique et vertigineuse.
Contemple. Sur la terre étoilée, surprend le ciel. Écoute le chant bleu des étoiles en la rosée des mousses.
Les astronomes ont exploré le ciel, découvert les étoiles, découvert des galaxies, découvert de nombreuses propriétés de l'univers. Mais ils ne sont pas les seuls à parler de l'univers. Les philosophes en parlent, les poètes en parlent, de nombreux écrivains en parlent aussi. Et donc ce que nous avons voulu faire, c'est croiser les regards de toutes les disciplines, à travers toutes les époques, et faire se répondre des textes, parfois en miroir, parfois en opposition, et montrer comment, à chaque fois que nous avons compris un petit peu mieux l'univers, eh bien ça a aussi inspiré des auteurs, ça les a fait rêver. Ils sont parfois allés plus loin que les scientifiques, puisqu'ils n'avaient pas la méthode scientifique à respecter, et donc ils ont rêvé. Ces rêveries parfois sont des grandes spéculations, et parfois on peut les voir rétrospectivement comme des sortes d'intuitions. Et donc notre idée, c'est de vous faire ressentir en fait le sentiment que l'on peut avoir en regardant le ciel, le vertige que l'on peut avoir si on pense que cet espace qui est au-dessus de nous est peut-être infini et qu'il nous porte en germe.
Écoute ton regard se mêler aux étoiles, leurs reflets se heurter doucement dans tes yeux.
J'eus le vertige et je pleurais. Car mes yeux avaient vu cet objet secret et conjectural dont les hommes usurpent le nom, mais qu'aucun homme n'a regardé. L'inconcevable univers.
J'ai rendez-vous avec le rabbin. On se voit au port. Il est jeune, marié. Il s'occupe d'art moderne. Il a découvert des étoiles.
On sait que le catalogue des étoiles est infini. En rajouter une nouvelle n'est pas si extraordinaire, mais quand ça arrive, je me surprends à applaudir le ciel. Nous appartenons à une espèce d'entêté.
Oui, entêté.
Nous sommes une espèce d'entêté. Nous devons rajouter une étoile au catalogue, toujours. Mais ce n'est pas suffisant. Nous devons comprendre aussi.
Exactement.
Et pour comprendre justement et faire comprendre aux entêtés que nous sommes quelques-uns des mystères insondables de l'univers, tous les moyens sont bons, y compris la musique. Celle, Jean-Pierre Lumier, de votre ami, le compositeur Hector Parra, extrait d'Inscape, qui vous inspire tant. Mais justement, pour faire passer les mystères de l'univers, est-ce que tous les moyens sont bons? C'est la question que Jean-Philippe Puzan a souhaité vous poser au micro de Caroline Fiette.
Alors Jean-Pierre est un ami, ça fait toujours plaisir de lui poser une question, surtout qu'on l'a beaucoup entendu cet été avec ses chroniques. Jean-Pierre, ça fait très longtemps que tu fais de la vulgarisation scientifique. J'aimerais savoir quel regard tu as sur l'évolution en fait, de la façon de diffuser les sciences. Il y a eu beaucoup de nouveaux médias, beaucoup de nouvelles personnes qui parlent de science avec YouTube, avec différents types d'expériences. Alors, comment est-ce que tu vois cette évolution? Et surtout, comment est-ce que tu considères le rôle des scientifiques qui font de la vulgarisation dans ce nouveau paysage?
Votre réponse,
Jean-Pierre Lumier. Il faudrait consacrer l'émission entière.
Oui, c'est vrai.
J'aime beaucoup Jean-Philippe, ça a été un de mes meilleurs collaborateurs scientifiques sur les modèles de l'univers chiffonné. Et puis aussi, il partage comme moi également sa passion pour la créativité en général. C'est un passionné de musique, tout comme moi. Et donc là, la mise en pièce de théâtre des poèmes, qui me rappelle d'ailleurs le fait qu'il y a plus de 20 ans, j'avais commencé moi-même à publier une vaste anthologie justement de ce rapport que le poète a avec l'univers.
Entretien avec le cosmos et l'univers.
Les poètes et l'univers, ça s'appelait... Et le sujet est tellement riche, d'ailleurs, que dans les extraits que nous avons entendus, aucun des textes que j'ai entendus ne figure dans mon livre, qui était déjà pourtant assez gros. Ça montre effectivement cette richesse foisonnante de l'imaginaire poétique humain face au cosmos.
Et qui est intéressant dans les deux sens, en tant qu'intuition aussi.
Absolument, oui. Alors, il y a certains, comme je l'expliquais déjà à l'époque, il y a des poètes qui suivent plus ou moins la parole du savant, en suivant un petit peu les avancées de leur temps. Ils transigent ça en poème, plutôt didactique. Et puis, il y a ce que j'appelle les rêveurs d'univers, qui sont finalement les plus intéressants, qui font fonctionner à plein leur imagination et leur intuition, et qui parfois, comme l'a dit Jean-Philippe, effectivement, touchent du doigt quelque chose du cosmos, une petite vérité toute minuscule sur le cosmos, que découvrira avec d'autres moyens plus tard l'investigation scientifique. Alors maintenant, pour la grande question de la mise en culture de la science, la vulgarisation, comment on l'appelle?
Ah, mais c'est plus joli, mise en culture,
Alors c'est vrai que j'ai commencé assez tôt à faire ça, puisque, d'ailleurs, mon image de trou noir, elle a été publiée en 1979, mais juste avant, quelques mois avant, dans la revue de vulgarisation La Recherche, sans les détails techniques. Et donc, ça a été mon premier article de vulgarisation sur les trous noirs. Après, il y a eu mon livre de 1987, et après, je ne l'ai plus arrêté, puis après, il y a eu les conférences. Maintenant, je passe le tiers de ma vie à donner des conférences un petit peu dans tous les publics, donc forcément, évidemment, au-delà des séminaires spécialisés, ce sont des conférences de vulgarisation ou de semi-vulgarisation. Ça joue un rôle extrêmement important. Je trouve que ça fait partie de la tâche, le devoir, c'est peut-être le mot un peu fort du scientifique, mais une activité vraiment que...
Qui est importante pour
vous. Oui, ce qu'il y a, c'est que tous les chercheurs ne sont pas forcément, n'ont pas forcément soit envie ou n'ont pas forcément également la capacité d'expliquer simplement. Moi, je m'étais arrivé, évidemment, j'ai collaboré avec des chercheurs extraordinairement brillants, notamment Brandon Carter, qui était mon directeur de thèse, puis après j'ai fait des travaux avec lui. Il est incapable d'expliquer en termes simples ce qu'il fait. Voilà.
Et
il
a parce que c'est vrai que
c'est un chercheur
évident,
de premier plan malgré tout.
Oui.
Voilà. Et puis, Jean-Philippe, qui était également un chercheur de premier plan, lui également, il a cette faculté extrême de toucher le public en utilisant des images, des métaphores, tout un ensemble de choses, et en utilisant aussi les différents moyens. Alors, c'est vrai que, il y a 40 ans, quand j'ai commencé à faire de la vulgarisation, c'était essentiellement l'écrit, c'est-à-dire le livre, d'abord l'article en revue de vulgarisation. Vous écrivez un truc pour La Recherche, pour Science et Vie, Science à venir, Ciel et Espace, etc. Après les livres, évidemment. Voilà. Et puis évidemment, aujourd'hui, avec le développement de YouTube, les réseaux sociaux... le théâtre, tout un ensemble de choses. Mmh. On a une palette extraordinaire pour raconter la science. Ben encore, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en juillet dernier, au début du mois de juillet, ben justement avec trois autres astronomes, dont Hélène Courtois, justement, on a fait carrément dans un théâtre parisien, Théâtre de la Scala, on a fait une série de quatre conférences, mais c'est des conférences un peu
mises en scène.
Voilà, avec de véritables mises en scène. Moi, j'ai raconté toute l'histoire, effectivement, de la visitation des trous noirs, puis chacun racontait son sujet. Le public était absolument en baba, parce que c'était plus vraiment, à la fois on donnait de l'information scientifique, mais sous une forme.
C'est ça, sans
originale.
Équations.
Voilà.
Et sans,
c'est alors, ça, hein. Alors aussi avec YouTube. Alors, c'est vrai que moi-même, finalement, je me suis mis aussi à étudier aussi ces autres, à utiliser ces autres médias, puisque j'ai créé un blog il y a quelques années où j'ai toute une série de billets de blog où finalement je peux davantage encore exprimer la large palette de mes intérêts, de mes passions. Mmh. Sur ce blog, il y a évidemment les choses qui tournent autour
aussi
de l'astrophysique. De temps en temps, je mets mes poèmes, mais voilà, il y a beaucoup d'histoires de l'art, la littérature, la poésie, la musique, etc. Donc ça touche évidemment au large public. Puis j'ai eu une chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, il y a 400 vidéos, il y a 1 million de vues, etc. Où il y a beaucoup de mes conférences qui sont. Qui sont filmés.
Donc ce sont des médias, des médiums, tout est bon finalement pour faire passer quoi, l'émerveillement,
bon.
La curiosité.
Bon,
oui.
Pas forcément tout est bon. Ça me rappelle quelque chose. Il y avait un grand vulgarisateur des théories sur l'origine, sur l'origine de l'homme. Bon, tout le monde le connaît. Et donc, il avait participé notamment à un jury de l'élection de Miss France. On lui avait demandé, mais qu'est-ce que vous allez faire là-dedans? Et il avait répondu, mais tout est bon pour faire passer la science. Alors bon, je suis peut-être pas prêt d'aller jusque-là, parce que des fois, on m'en fait des propositions un peu bizarres que je n'ai pas acceptées, mais voilà.
Vous n'irez pas présenter Miss France, mais en revanche, vous utilisez beaucoup de métaphores culinaires, et c'est notamment vous qui avez travaillé sur ces fameuses crêpes stellaires flambées. C'est pas du tout une blague, c'est pas juste une recette, c'est une magnifique manière même de nous faire un peu percevoir les étoiles qui se perdent aux environs des trous noirs.
Oui, alors après avoir calculé mon image de trou noir à la fin des années 70, après j'ai passé à peu près une dizaine d'années, d'ailleurs dans la décennie 80 et avant de passer aux univers chiffonnés dont nous avons parlé précédemment, à chercher finalement d'autres une sorte de signature de trou noir, indirecte de trou noir, hein, c'est-à-dire quels effets particuliers un trou noir va provoquer sur son environnement. Et je me suis dit, on pense qu'il y a des gros trous noirs au centre des galaxies. Au centre des galaxies, il doit y avoir plein d'étoiles. Donc forcément, il y a des étoiles qui doivent frôler les trous noirs. Qu'est-ce qui leur arrive? Eh bien, il leur arrive des choses un petit peu bizarres, parce que ce qu'on appelle les forces de marée gravitationnelle vont détruire ces étoiles. Alors là encore, au départ, imaginez ça. Mais c'est plausible physiquement. Après, il faut mettre ça en structure. Donc, on crée des équations et on calcule comment ça se passe. Et puis, j'avais avec mes collaborateurs, j'ai travaillé une dizaine d'années avec quelques collaborateurs, on avait trouvé que l'étoile, dans un premier temps, elle était aplatie dans le plan de son orbite, un peu comme une crêpe,
comme
si
une
vous
crêpe,
voulez, une crêpe gazeuse, bien entendu, pas très comestible, d'autant qu'à force d'être aplatie, elle finissait par rebondir et exploser. Donc, d'où le terme un petit peu, évidemment, humoristique de crêpe stellaire flambée. Je suis aussi j'aime beaucoup le lien entre l'astronomie et la gastronomie, parce que moi j'aime bien faire la cuisine aussi.
Et oui, et il y a pas mal de liens quand même. On parle de soupe cosmique ou de soupe
primordiale.
Il y a pas mal de termes culinaires quand même.
L'univers nous nourrit intellectuellement. Donc. Et donc,
et vous aimez faire les crêpes flambées?
Ce qui a été bien avec ces crêpes stellaires flambées, c'est que donc, nous avons au départ proposé des modèles théoriques, parce qu'on n'avait aucun moyen observationnel de vérifier que ça existait. Et puis c'est venu assez rapidement. Quelques années plus tard, les télescopes envoyés dans l'espace, etc., ont commencé à voir effectivement des flambées se passent déroulant au centre de galaxies très lointaines qui sont désormais interprétées par les crêpes stellaires flambées, donc ça marche.
Autour de la question comment imaginer l'univers et les crêpes stellaires flambées avec vous, Jean-Pierre Luminet, faut-il craindre un jour que le ciel ne nous tombe sur la tête? Vous avez aussi pas mal travaillé et écrit sur les astéroïdes. C'est un danger qui nous menace, les astéroïdes?
Alors, sur de très très longues périodes de temps, la réponse est oui, mais ce sont absolument pas des échelles humaines. Voilà. Alors c'est vrai que j'ai pas travaillé techniquement sur les astéroïdes, mais j'ai écrit plusieurs ouvrages voilà, dessus. Parce qu'on sait qu'il y a eu dans le passé de la Terre des extinctions massives d'espèces, dont au moins une, sans doute d'autres, sont attribuables à des impacts cosmiques. Donc, il est naturel de se poser la question, et nous, et dans le futur, est-ce que cela peut arriver ? Donc, c'est tout un travail absolument passionnant d'étudier ces petits corps fascinants du système solaire que l'on appelle les astéroïdes, qui sont ces sortes de restes d'une planète qui n'a jamais réussi à se former. Et donc, il y a des cailloux qui se baladent partout dans le système solaire, et il y en a qui frôlent la Terre et il y en a qui tombent dessus. Mais alors, donc, je rassure une fois de plus les auditeurs, parce que de temps en temps, je reçois des messages de personnes affolées en disant je suis paniqué. Voilà, puisque évidemment, les médias se font fort de dire il y en a de temps en temps. Voilà. Il y a 10 ans, on n'en parlait pas. Maintenant, toutes les semaines, on lit un truc, on y a un scoop, il y a un astéroïde qui va frôler la Terre. Puis quand on regarde vraiment ce qui se passe, ça va passer à 10 millions de kilomètres. Alors, c'est vrai qu'à l'échelle cosmique, c'est un frôlement, mais ça ne présente strictement aucun risque.
Vous nous voilà rassurés. Comme l'imagination est au pouvoir ici et maintenant, on va même aller jusqu'à imaginer une parade digne d'un film de science-fiction avec ce clip à voir sur Internet signé Studio Bagel. Quand la Terre est menacée par un astéroïde et la science-fiction, mais ce sont les rappeurs carrément qui vont entrer dans la danse pour sauver l'humanité. C'est le clash astéroïde sur RFI.
Général, il arrive.
Quoi ?
L'astéroïde vient d'augmenter sa vitesse. Il fonce sur la Terre à 200 km seconde.
Les missiles ?
Échec.
Les ogives ?
Pareil.
Les bombes sismiques ?
Non.
Si on ne fait rien, il percutera la Terre et détruira notre civilisation. Dans 58 minutes.
Putain, l'astéroïde de merde.
Cet astéroïde réagit au clash, continuez.
T'es qu'un petit caillou, tu dépasses pas la taille d'un gravillon. On pourrait détourner avec un battement d'aile de papillon. Prends pas la grosse tête, autour de sucer la queue d'une comète. Je te trouve gênant comme quelques grains de sable au fond d'une chaussette. Je vais te mettre binable en live sur Périscope. T'es tellement petit pour t'observer, on a besoin d'un télescope. Quand je pense au temps perdu par les chercheurs qui t'ont épié, alors que pour t'arrêter il fallait juste une pince à épiler. T'es le plus faible
de tous les astéroïdes.
Tu veux battle avec nous?
On prend une cuillère de stéroïdes.
Si la Terre était un ovule, tu serais pas le bon spermatozoïde. J'aurais plus mal au cul avec un bon vieil hémorroïde. T'es qu'un vieux débris, un genre de SDF sidéral. T'es à la rue, t'inquiète, je vais appeler SAMU spatial. Bah ouais mon gars, t'aurais pas dû nous clasher. Vas-y casse-toi, bien profond dans ta voie lactée.
Et oui, c'est bien le clash astéroïde du rappeur Jérôme Niels du studio Bagel. Vous n'avez jamais entendu ça encore?
Non, mais ça montre bien ce qu'on disait tout à l'heure. Presque tout est bon pour parler
c'est
de
ça.
Science.
En tout cas, ça vaut le détour et la visite sur Internet autour de la question comment imaginer l'univers. Donc, en votre compagnie, Jean-Pierre Luminet, vous avez même un astéroïde à votre nom, tout là-haut,
là-haut dans l'espace. Oui, numéro 5523, un caillou qui doit faire 7 ou 8 kilomètres de diamètre.
Il est où, à peu?
Mais il ne fait pas partie des astéroïdes potentiellement dangereux. Il gravite sagement, bien calé entre les orbites de Mars et de Jupiter, là où sont la majorité des astéroïdes. Et donc, voilà, je
vous
le
vous
suis de temps
pas
en
de nous
temps. Je vais sur le site de la NASA, je tape son nom, Luminet 523, et je vois exactement où est-ce que je suis dans le système solaire.
Qui est-ce qui a décidé de le nommer Luminet?
Ce sont des commissions de nomenclature officielle. Donc, il y a un organisme qui s'appelle l'Union Astronomique Internationale, voilà, avec des commissions de nomenclature des objets célestes. Et chaque type d'objet céleste obéit à des règles particulières. Par exemple, les comètes portent le nom de leurs découvreurs. Les astéroïdes, non. Les découvreurs d'astéroïdes ne peuvent pas donner leur nom. Donc, ils proposent des noms. Et donc, en 1998, c'est le découvreur de cet astéroïde-là qui avait été découvert précédemment au Mont Palomar. En 91, ont proposé mon nom. Simplement, c'est un hommage aux travaux que j'avais faits à l'époque, déjà, essentiellement sur les trous noirs et les univers chiffonnés et mes crêpes stellaires.
Et vos crêpes stellaires, autour de la question pourquoi et comment rêver l'univers, du rêve à la réalité, justement, de l'exploration spatiale. Je vous pose une nouvelle question un peu malicieuse, Jean-Pierre Luminet, soulevée par l'astronaute Michel Tonini, qui était récemment notre invité et que vous connaissez. Michel Tonini, oui. Qui a passé 18 jours en tout, en orbite orbite dans l'espace, une première fois avec les Russes, dans la station spatiale Mir, et une deuxième fois avec les Américains, à bord de la navette Columbia. On l'écoute.
Alors Jean-Pierre, bonjour. On se connaît très bien et on s'apprécie beaucoup. Et j'aurais voulu savoir si tu aurais aimé être astronaute, toi aussi. Et si tu avais été dans l'espace, qu'est-ce que tu aurais aimé y faire comme tâche particulière ?
Alors, l'astronaute, ça vous tenterait, ça vous aurait tenté, Jean-Pierre?
Oui, comme une aventure, sportive, humaine, enfin une aventure qui n'est plus tout à fait intellectuelle, ça m'aurait tenté. Simplement, d'ailleurs, au début des années, je crois que c'est au début des années 90 ou à la fin des années 80, il y a eu une proposition, c'est-à-dire l'Agence spatiale européenne avait décidé de recruter les futurs astronautes, et plus seulement dans l'inépuisable vivier des pilotes d'essai, etc., etc.
Mais du côté des... Comme Thomas Pesquet,
mais... avec toute une série d'épreuves à subir, etc.
Donc, mais du côté
a priori,
des
moi j'étais jeune encore à cette époque, a priori j'étais tenté, mais j'ai même pas essayé. Vous savez pourquoi ? J'ai tout simplement le mal de mer. J'ai vu que je monte sur un bateau, j'ai le mal de mer, je monte en voiture, si je conduis pas dans les virages, j'ai mal au cœur, etc.
Ouais, donc dans la fusée, c'est pas
là,
bon.
Ça tiendrait pas. Alors je me suis consolé en me disant que finalement, avec les yeux de l'esprit, on va beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, le livre qui est paru, là, Les Chroniques de l'espace, voilà, c'était justement un petit peu un beau prétexte pour moi pour partir justement de cette aventure qui est d'abord une aventure humaine et technologique, envoyer les premiers hommes d'abord en orbite autour de la Terre, puis sur la Lune, voilà. Mais après, c'est le point de départ justement de toute notre exploration de l'univers, puisque c'est ça qui a permis de faire ces progrès extraordinaires. Après, d'embarquer des sondes spatiales qui vont explorer le système solaire, des sondes robotisées et automatiques qui vont permettre de comprendre les planètes, puis après d'embarquer des télescopes dans l'espace qui nous font découvrir l'univers à très grande échelle, etc. Ça lie finalement toute cette aventure et à la fois initialement humaine et un véritable exploit, les héros de l'espace. Donc, Léonov, le premier piéton de l'espace, qui nous a quittés il y a quelques jours.
Mais oui, hommage au premier piéton de l'espace.
Il y a deux semaines, j'ai fait aussi une conférence en duo avec Jean-Luc Chrétien, qui a été, ça a été le premier astronaute européen à voyager, à faire une sortie dans l'espace, aussi bien également avec les Russes et avec les Américains. Formidable de partager ces choses-là avec des personnes comme ça. Il y a trois jours à la Sorbonne, j'étais aussi avec Jean-François Clairvoy.
Autre astronaute français. Vous consacrez d'ailleurs évidemment plusieurs chapitres dans ces chroniques de l'espace à cette exploration spatiale, et notamment un au coût exorbitant de cette exploration, mais c'est assez drôle. Et expliquez ce que vous répondez à ceux qui vous disent...
Oui, alors j'ai écrit une chronique qui s'appelle « Combien ça coûte ?» parce que, évidemment, c'est la question qu'on pose souvent, et surtout aujourd'hui, où on examine tous les maux de la planète Terre avec le réchauffement climatique, et puis la faim dans le monde, et pourquoi on ne fait pas ceci, pourquoi on fait cela, pourquoi on va dépenser des milliards de dollars pour envoyer un machin sur Mars, alors qu'il y a tant de problèmes à régler. Et donc voilà, je traite ce sujet assez brièvement, parce que chaque chronique fait trois pages, et je rappelle tout simplement que déjà, évidemment, la question se posait déjà à l'époque des missions Apollo, et à l'époque, on pouvait déjà répondre que simplement les progrès technologiques, même si les progrès technologiques ne contribuent pas forcément au bonheur de l'humanité, mais apporte des progrès dans la médecine, dans tout un ensemble de choses. Il y a eu donc d'énormes progrès technologiques, déjà aussi les ordinateurs, l'imagerie médicale, tout un ensemble de choses, qui sont des retombées de l'exploration spatiale. Et donc, il ne faut jamais perdre de vue ce fil-là. Après, quand on dit que ce sont des sommes exorbitantes, il faut aussi les replacer dans leur juste proportion. Face aux flux financiers quotidiens, c'est une goutte d'eau.
Je cite un exemple.
Qui frappe. Je ne sais pas si c'est celui de Mars, peut-être.
Oui.
Voilà. Donc, il y a la fameuse compagnie qui vend des friandises qui s'appelle Mars. Donc, il vend les chewing-gums, les barres chocolatées, tout un ensemble de choses. Vous savez, son chiffre d'affaires annuel, c'est 60 milliards de dollars. Eh bien, c'est 60 fois la somme qui est consacrée chaque année, toutes agences spatiales confondues, à l'exploration de la planète Mars. Et derrière, quand même, l'exploration de la planète Mars, il y a la question de la vie ailleurs dans l'univers.
Il y a la question aussi de ces multivers. Sur quoi vous travaillez aujourd'hui?
Ça n'a plus rien à voir avec Mars. Mais alors, je travaille sur ce qu'on appelle des théories de gravitation quantique. Donc, moi, j'ai Bon, j'ai fait l'essentiel de ma carrière sur, autour de la théorie d'Einstein, la relativité générale. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a l'autre pilier de base de la physique moderne, qui est la physique quantique, c'est-à-dire la physique de l'infiniment petit. Bon, on a deux théories magnifiques qui marchent très très bien.
Une pour l'infiniment grand,
plutôt pour le très grand, et l'autre pour le très petit. Mais il y a des situations, et c'est justement les situations qui m'ont toujours passionné et intéressé, où il faudrait mettre les deux, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au fond d'un trou noir, ou qu'est-ce qui s'est passé dans l'hypothétique Big Bang, puisque l'univers il était tout petit, concentré, bon, forcément pas en un point, mais justement, pour savoir ce qui s'est réellement passé, ben, il faut mêler à la fois le très grand et le très petit, donc il faut mêler ces deux théories. On a beaucoup de mal. Ça fait 50 ans que des dizaines d'esprits extrêmement brillants, chercheurs, un petit peu se cassent les dents dessus, même s'il y a pas mal de propositions qui ont été faites, je travaille dessus. En ce moment, oh, c'est pas moi qui vais résoudre la question, je sais bien, mais en tout cas, je fais un petit peu l'inventaire de toutes les approches qui sont proposées en regardant les avantages et les inconvénients de chacune, c'est-à-dire les forces et les faiblesses. Et je prends beaucoup de plaisir à faire ça.
Et là encore, il y a l'intuition d'abord. Vous fonctionnez à l'intuition et ensuite, vous prouvez par le calcul, vous cherchez par le calcul.
Ben, beaucoup de, oui, beaucoup d'intuition et d'imagination. Parce que justement, quand je dis que les deux théories relatives générales et physique quantique sont incompatibles, c'est qu'elles fonctionnent réellement dans des cadres de pensée très différents, dans des modèles physico-mathématiques très différents. Donc je répète, elles sont efficaces dans leurs domaines respectifs. Si on veut les marier, ben, si vous essayez de marier des gens qui se détestent, hein, ça marche pas vraiment. Voilà. Donc il faut inventer autre chose, il faut trouver un nouveau cadre. Voilà. Et donc c'est ça. Bon, par exemple, en théorie des cordes, ben, il faut y rajouter 7 dimensions de l'espace. En théorie de la gravité quantique à boucle, il faut imaginer au contraire que l'espace il est plus lisse et continu, mais qu'il est discontinu granulaire. Et donc, toutes ces approches-là sortent du cadre habituel, de notre façon de penser habituellement, quand je dis habituellement, depuis la relativité, de penser l'espace-temps de façon encore beaucoup plus complexe et beaucoup plus subtile.
Et quand vous dites sortir...
Et donc, c'est très créatif, et c'est pour ça que ça m'intéresse
autant. C'est ça, c'est extrêmement créatif, c'est sortir du cadre. Mais est-ce que vous imaginez, quand vous donnez vos images, le trou de verre, la pomme et le verre, on comprend très bien, la galette stellaire flambée, on comprend aussi. Est-ce que vous voyez, dans votre tête, dans votre cerveau à vous, Jean-Pierre Luminet, comme ça, ce que vous nous dites, est-ce que vous le voyez ou est-ce que ce sont...
Ben disons qu'à mesure que les concepts deviennent de plus en plus sophistiqués, et ils le sont, c'est de plus en plus difficile de visualiser correctement des choses. Donc on se crée... Comment on fonctionne malgré tout avec des images internes? On se crée des images approchées qui ne sont pas les bonnes, mais sachant que ce ne sont pas les bonnes, on peut fonctionner malgré tout avec, avec ces images. Oui, alors,
vous avez vos propres
genre
images,
ce genre de théorie débouche par exemple sur, vous avez fait allusion, sur les fameux multivers, c'est-à-dire cette hypothèse incroyable selon laquelle notre univers finalement ne serait pas unique. Quand je dis l'univers, ce n'est pas juste une galaxie, la Voie lactée,
non,
mais je parle de
l'univers
avec ces 1000 milliards de galaxies qu'on croit être unique avec un Big Bang, etc. Mais d'autres univers, une multiplicité incroyable, pas infinie, mais énorme, qui serait dans d'autres dimensions de l'espace, pas en contact avec le nôtre.
Donc, la théorie des multivers,
Qui est issue de certaines approches, justement, de gravitation quantique. Évidemment, ça fait réfléchir beaucoup. Après, ça a des implications en plus philosophiques sur la nature même de notre propre univers. Pourquoi il est comme il est, alors que normalement, il pourrait être extraordinairement différent, puisque les autres univers, en principe, ont des lois de la physique radicalement différentes et ne ressemblent pas du tout à notre univers. Donc, ça soulève des questions absolument passionnantes, qui sont aussi des questions de philosophie et de métaphysique.
On est loin d'avoir fini de se poser toutes ces questions physiques, astrophysiques et métaphysiques, loin d'avoir fini de rêver, d'imaginer, de comprendre l'univers. Merci infiniment d'avoir partagé un peu de votre science et de votre poésie avec nous, Jean-Pierre Luminet. Je renvoie nos amis auditeurs sur ces chroniques de l'espace aux éditions coéditées par France Inter et les éditions du Cherche Midi, dont nous avons un exemplaire à vous faire gagner. N'hésitez pas à nous le demander par mail ou sur notre page Facebook en précisant bien votre adresse postale. Et si vous ne remportez pas ces chroniques de l'espace de Jean-Pierre Luminet, nous avons aussi une très jolie petite anthologie du cosmos signée Nicolas Grenier aux éditions Paulsen à vous offrir. Et je renvoie aussi sur votre prochain recueil de poèmes, Jean-Pierre Luminet, à paraître tout début 2020, je pense, aux éditions du Cherche Midi et avec une gravure originale de l'artiste Ernest Pignon-Ernest. Et puis au Théâtre de la Reine Blanche du 8 au 17 novembre prochain, Jean-Philippe Uzan et Étienne Pommerette pour 5 Terra Nuit plus une errance cosmique. Pas mal de choses à faire. Merci d'être venu dans notre studio, Jean-Pierre Luminet. Merci Hugo Violas de l'autre côté de la vitre et Caroline Fillette en coulisses, bien sûr. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Et n'hésitez pas à imaginer. À demain, chers amis auditeurs.